Bonjour à chacun. Je vais juste prier avant de commencer. Merci Seigneur parce que tu fais de nous un peuple, tu fais de nous un peuple que tu aimes. Et merci pour ta grâce et ta bonté envers nous. Merci pour la croix, merci pour le sacrifice de Jésus. Et merci aussi pour ta parole, Seigneur, qu'on peut ouvrir, qu'on peut lire et qu'on peut comprendre. Et Seigneur, je te demande particulièrement ce matin de nous assister, que ton esprit éveille en nous ta parole, que je puisse être clair, précis sur ce que je dis de ta parole, Seigneur, et qu'on puisse être édifié. Et Seigneur, nourris-nous encore et transforme nos cœurs pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On continue donc la série sur le livre d'Esther. Et jusqu'ici, on a vu les quatre premiers chapitres. Et ce matin, on verra les chapitres 5 et 6, tous les deux, en une fois. Et juste pour essayer de faire un petit rappel de où on en était de cette histoire ou de ce qui s'est passé avant. Quatre personnages principaux dans ce livre d'Esther, quatre personnages qui sont vraiment dans la trame de l'histoire. Donc Esther, une jeune fille, une belle jeune fille d'une grande beauté, juive. Mardochée, le fils de son oncle, qui l'a adopté au décès de ses parents. Tous les deux sont en exil en Perse, dans l'Empire Perse, pardon, où le roi Assuérus s'est choisi, après un concours de beauté, Esther comme reine. Et il y a un dernier personnage qui est entré en scène au chapitre 3, c'est Aman, qui est un haut ministre et qui a été promu au rang de premier ministre et qui est un adversaire de Mardochée parce qu'il lui aurait manqué de respect en ne s'inclinant pas à son passage. Et de ce fait, Aman a lancé un édit pour exterminer tout le peuple juif à cause de ce manque de respect pour lui. Et donc le roi a mis un décret pour détruire et tuer tout le peuple juif. Au chapitre 4, Mardochée vient voir Esther, la reine, et lui l'avertit de tout ce qui se passe pour qu'elle puisse prendre action ou faire quelque chose auprès du roi. Et elle répond qu'elle ne peut pas se présenter au roi parce qu'elle n'a pas été invitée, sinon elle peut être tuée pour cela. Et Mardochée va l'exhorter de façon un peu plus forte en lui disant que si elle n'agit pas, elle, est, en tant que juive, même si elle est reine, elle ne pourrait pas être épargnée elle non plus. Et il interpelle aussi sur le fait, au chapitre 4, verset 14, « Si tu ne dis rien en cette occasion, le soulagement et la libération des juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et ta famille vous disparaîtrez. D'ailleurs, qui sait, si ce n'est pas pour cette occasion que tu es parvenu à la royauté. » Et après ce rappel ou cette interpellation d'Esther, de Mardochée, pardon, Esther se décide à aller le voir le roi. Et c'est exactement à ce stade que nous sommes de l'histoire où le chapitre 5 va commencer. Et juste avant de le lire, je veux juste qu'on prenne conscience qu'Esther est dans une position délicate. La menace de Dieu pèse sur elle parce qu'elle est juive, mais elle pèse sur elle parce qu'elle va devoir aller se présenter au roi au risque de sa vie. Ils sont tous les juifs en danger dans cet empire en exil. Et comme ça a été rappelé dans les précédentes prédications, le nom de Dieu n'est pas mentionné dans ce livre. Et on peut d'ailleurs se demander que fait Dieu pour ce peuple qui est en détresse. Ou même cette question pour nous, quand nous nous souffrons, quand nous traversons des situations difficiles, que fait Dieu exactement? Où est-il? Je propose qu'on lise ces chapitres 5 et 6 d'Esther avant de commencer. Esther, chapitre 5. Trois jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et se tint debout dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal dans le palais royal, face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur, et il lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Esther répondit, « Si tu le juges bon roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman au banquet que j'ai organisé pour toi. » Le roi dit alors, « Allez sans tarder chercher Aman, pour répondre à l'invitation d'Esther. Il se rendit avec Aman au banquet que celle-ci avait préparé. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quel est l'objet de ta demande ? Il te sera accordé. Que désires-tu ? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Ce que je demande, ce que je désire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande et de satisfaire mon désir, j'aimerais que tu viennes avec Aman au festin que j'organiserai pour vous, et c'est demain que je répondrai à ta proposition. » Ce jour-là, Aman repartit content, dans de joyeuses dispositions, mais lorsqu'il vit Mardoché, toujours à la porte du roi, ne se levait toujours pas et ne tremblait toujours pas devant lui, il fut rempli de colère contre lui. Il parvint néanmoins à se contenir et rentra chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et sa femme Zeresh. Il lui explosa point par point la valeur de ses richesses, le grand nombre de ses fils, toute l'importance et tout le pouvoir que le roi lui avait accordé en le plaçant au-dessus de tous les princes et de ses propres serviteurs. Il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au banquet qu'elle a organisé et je suis encore invité pour demain chez elle, en compagnie du roi. Cependant, tout cela n'a aucune valeur pour moi. Aussi longtemps que je verrai Mardoché, le juif, assis à la porte du roi. » Sa femme Zeresh et tous ses amis lui suggérèrent alors, « Fais préparer une potence de 25 mètres de haut et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. Tu pourras ensuite accompagner dans la joie le roi au banquet. » Aman trouva le conseil bon et fit préparer la potence. Chapitre 6. Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Il fit donc apporter le registre des événements marquants, les annales, et l'on en fit la lecture devant lui. On y trouva mentionnées les révélations faites par Mardoché à propos de Bigthan et Teresh, les deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi demanda, « Quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardoché pour cela ?»« On lui a absolument rien accordé, » répondirent les jeunes serviteurs du roi. Le roi demanda alors, « Qui donc est dans la cour ?» Aman avait fait son apparition dans la cour extérieure du palais pour demander au roi de faire pendre Mardoché à la potence qu'il avait préparée à son intention. Les serviteurs lui répondirent, « C'est Aman qui se tient dans la cour du roi. Qu'il entre !» ordonna le roi. Dès qu'Aman fut entré, le roi lui demanda, « Comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit, « Qui d'autre à part moi le roi voudrait-il honorer ?» Et il lui répondit, « Si le roi veut honorer un homme, il faut prendre le vêtement royal que le roi a déjà porté, ainsi que le cheval que le roi a déjà monté et sur la tête duquel on est posé une couronne royale. Il faut confier le vêtement et le cheval à l'un des illustres princes du roi, mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer, le conduire, monter sur le cheval sur la place de la ville et crier devant lui. Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Aman, « Dépêche-toi de prendre les vêtements et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardoché qui est assis à la porte du roi, sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné. » Aman prit donc le vêtement et le cheval, mit cette tenue à Mardoché et le conduisit, monté sur le cheval, sur la place de la ville, en criant devant lui, « Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer !» Mardoché retourna ensuite à la porte du roi, tandis que Aman s'empressait de rentrer chez lui dans une attitude de deuil et la tête couverte. Lorsqu'il exposa point par point à sa femme Zeresh et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé, ses conseillers et sa femme Zeresh lui dirent, « Si ce Mardoché devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui. Tu ne pourras que perdre la partie contre lui. » Et on va s'arrêter là, parce que la suite sera pour une autre prédication. Je ne sais pas quel est votre sentiment jusqu'ici à l'écoute du livre d'Esther, mais c'est vrai que c'est pour moi des sentiments mêlés. Quelquefois des moments qui dérangent, parce qu'on y voit du récit de choses assez étranges, de coutumes particulières. Mais quand même, je trouve que dans ce chapitre 5 et 6, qui sont vraiment des chapitres clés dans l'histoire, qu'on a un pivot, quelque chose qui se passe, une transformation qui se passe chez tout le monde. On est littéralement 3 jours après le fait que Mardoché ait dit à Esther d'agir pour le peuple juif et d'aller voir le roi. Et on est vraiment à ce moment. Et je veux commencer par ce premier point, qui est le courage et la sagesse d'Esther. Le courage et la sagesse d'Esther, qui sont dans les 8 premiers versets du chapitre 5. Et donc, décidée, résolue, après 3 jours de jeûne, Esther se pare de ses habits royaux et s'apprête à aller voir le roi. On est d'accord qu'elle est toujours exposée à la mort, parce que si elle se présente sans être invitée, si le roi applique la loi, alors elle peut être exterminée. Mais elle est dans cette mentalité de se dire, si je dois mourir, je mourrai. Je vais quand même essayer de convaincre le roi de stopper ce génocide planifié. Et c'est frappant parce que, quelquefois dans les récits, il y a du suspense, ici il n'y en a pas. Le roi voit Esther entrer, il la voit de loin dans sa cour, et le verset 2 nous dit, « Elle gagna sa faveur et lui tendit le sceptre d'or. » Donc tout de suite, le roi la double, le roi lui dit, « Tu peux entrer en ma présence. » Et il va même un peu plus loin, il est prêt à lui exaucer tout ce qu'elle lui demandera. Et on a cette formule peut-être hyperbolique, mais assez frappante. Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera accordée. C'est extraordinaire. En tout cas, j'aimerais moi aussi qu'on puisse m'exaucer mes demandes avant même que j'aie pu les formuler, comme le roi le fait ici, probablement à cause de la beauté, probablement parce qu'il aime Esther, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est prêt à lui donner la moitié du royaume, à lui confier tout ce qu'elle souhaiterait. Et on a déjà ici un changement par rapport à la peur et à la terreur qu'il y avait dans le chapitre 4. Mais j'aimerais juste attirer votre attention sur le rythme du récit ici. On est d'accord qu'il y a une menace contre le peuple juif. Il y a eu un édit qui a été fait. Tout le peuple juif est menacé. Pourtant, à l'annonce de ce qui va se faire, Esther prend quand même 3 jours où elle demande aux juifs de jeûner et où elle aussi elle jeûne. Et certainement prie, avant d'aller voir le roi. Et même quand elle va voir le roi, qu'elle a gagné sa faveur et qu'il lui dit « Je suis prêt à te donner la moitié de mon royaume », elle va lui dire quand même « Je ne te dis pas tout de suite ce que j'ai à te demander, viens au banquet que je vais organiser ce soir avec Aman. » Le roi s'y rend avec Aman. Et pendant le banquet, pendant qu'ils boivent du vin, le roi lui redemande « Qu'est-ce que tu veux ?» Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Quelle est ta demande? Et si c'est la moitié du royaume, je te l'accorde. Et bien là encore, elle va temporiser, elle va dire, si tu le juges bon roi, ben viens demain au deuxième banquet que je vais organiser. Et c'est assez bizarre, pourquoi tout ce temps, pourquoi cette attente? Parce que finalement, la menace est pressante, donc moi je me serais précipité, on est menacé, sauve-nous. Mais en fait, elle prend le temps. Elle organise un premier banquet, on peut imaginer une grande soirée, le roi lui demande quelque chose, non je ne réponds pas tout de suite, puis une deuxième soirée le lendemain, là je te le révélerai. Et c'est assez contrastant avec le rythme dans la société dans laquelle on vit, où il faut tout de suite une réponse, il faut être instantané, il faut répondre aux messages dès que tu les reçois. Je faisais la réflexion, si tu es au feu rouge, qui passe au vert instantanément, que tu ne démarres pas comme un pilote de Formule 1, on te klaxonne dessus. Tout est rapide dans la société. Il faut décider, accepter, choisir, répondre, commenter, tout en vitesse. Et pourtant là, Esther prend le temps. Elle ralentit, malgré la menace. Et Proverbe 21,5 dit quelque chose d'interpellant à ce sujet. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Et on peut voir dans le caractère d'Esther qu'il y a quelque chose de réfléchi et il y a probablement de la sagesse à prendre ce temps, à ralentir les événements plutôt que se précipiter. Elle a certainement dû bien réfléchir à ce qu'elle allait dire au roi, poser la situation, établir une stratégie, réfléchir aux conséquences. Mais elle a aussi pris le temps de s'assurer que le roi serait certains qui puissent l'aider, parce que 2 fois il confirme qu'il va répondre favorablement à sa demande. Mais ce temps est aussi un temps où elle laisse Aman s'enfoncer dans son projet de malheur. Et on le verra dans la suite de l'histoire que ceci se retournera contre lui. Mais elle prend aussi le temps de jeûner. Et c'est vrai qu'on n'a pas la mention de Dieu, mais il est clair que le jeûne est toujours associé à la prière. Et Esther fait vraiment la chose qui est prioritaire. Je m'arrête, je prends le temps de remettre les choses, je réfléchis, et ensuite j'agis. Et là, dans ce sens, on peut noter aussi une transformation dans le caractère d'Esther. Je vous disais, j'ai des sentiments mêlés quand je lis ce livre, parce que Esther du début du livre, c'est quand même un peu bizarre. On n'est pas très sûr de son caractère ni de son cœur. Elle s'affiche pas concrètement étant juive. Elle le cache sous le conseil de Mardoché. Elle rentre dans ce concours de beauté où finalement le roi se choisit une concubine et on peut imaginer sexe et orgie et tout ce genre de choses. Vraiment ce que ce livre suggère. Elle ne refuse pas les coutumes que ce peuple a, alors que dans la loi de Moïse, le peuple de Dieu est censé être séparé des peuples étrangers, ennemis. Elle se lie avec un païen, ce que la loi de Moïse réprouve aussi. Mais si on jugeait son caractère seulement sur ces 4 premiers chapitres, oui, on pourrait conclure, peut-être pas un modèle. Je ne suis pas sûr que ce soit le sens de la présentation des personnages dans la Bible, de nous aider à juger s'ils sont bons ou mauvais, mais au moins, on peut s'interroger et voir la transformation qu'il y a eu dans le caractère d'Esther. Elle passe de quelqu'un de peut-être compromis à quelqu'un qui montre courage, sagesse, mais aussi de la confiance en Dieu, parce qu'elle remet les choses avant d'agir. Et c'est vraiment interpellant, parce que ça ressemble à nous, à notre caractère, à notre cœur, de ce que Dieu fait en nous. Il nous a pris un moment de notre histoire et il nous transforme. On peut être quelquefois prompt au jugement en disant « mauvais, mauvaise personne, pas le bon cœur », mais peut-être qu'on devrait être plutôt dans l'optique de regarder la transformation que le Seigneur est en train de faire dans les cœurs. Et ça nous demande certainement de l'humilité. Et l'humilité, c'est vraiment la seule chose qui manque à Aman. Et là, je fais vraiment une transition avec la suite, les versets 9 à 14, où on voit la folie de l'orgueil d'Aman. La folie de l'orgueil d'Aman. Et au verset 9, c'est assez drôle comme situation. Il sort du premier banquet, il est heureux. On peut imaginer quelqu'un en fête, peut-être en état d'ébriété, heureux, content de tout ce qu'il a. Particulièrement réjoui d'être le proche du roi, le seul invité au banquet. Et en fait, il sort et il voit à la porte du palais encore ce Mardoché, encore ce juif qui est là assis, et encore cet individu qui ne tremble pas quand lui passe. Et ce que le verset 9 et le verset 10 nous disent, c'est il fut rempli de colère contre lui. Vraiment, quelqu'un qui passe d'un sentiment de joie à de la colère et de l'irritation, juste à la vue d'un personnage, juste parce que lui ne tremble pas. C'est assez frappant de voir comment des choses insignifiantes, des choses qui paraissent ridicules, peuvent, juste en un instant, aspirer notre joie et nous l'enlever. Et c'est vraiment ce qui se passe avec Aman. Son cœur est vraiment bloqué sur la situation de Mardoché qui ne le respecte pas. Et si on remonte dans l'histoire, il fait cet édit pour tuer tous les Juifs juste à cause du comportement d'un seul individu, de Mardoché, lui. Et alors, en sentiment de frustration, de colère, ce qu'il fait, c'est qu'il rentre chez lui, il appelle sa femme, il appelle ses amis, et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va leur faire l'étalage, l'exposer, comme c'est dit au verset 11 et au verset 12, point par point, de la valeur de ses richesses, du grand nombre de ses fils, de toute l'importance, de tout le pouvoir que le roi lui avait accordé en le plaçant au-dessus de tous les princes et de ses propres serviteurs. Et il va se réjouir même au verset 12 d'être le seul qu'Esther ait admis dans la présence du roi au banquet qu'elle a organisé et le seul qui va être réinvité le lendemain à l'autre banquet. Et je me suis juste dit, si Zeresh et sa femme Et si ce sont ses amis, ils doivent être au courant de tout ça. Mais quand même, dans sa colère, il se dit, le mieux que j'ai à faire, c'est étaler ma richesse, ma splendeur, tout ce que je possède. Et je crois, on appelle ça quoi? De l'autoglorification, de l'autopromotion, ou les plus jeunes diraient un ego trip, où on est vraiment en train de se louer, de se saucer, de dire, je suis le meilleur, je suis le plus grand, c'est moi. Juste avant de parler de l'exemple dont je vais parler, je ne fais pas une analyse politique, mais ça m'a quand même fortement rappelé un certain président outre-Atlantique qui est quand même un champion de l'ego. Je lisais un article au début du mois qui s'appelle littéralement « L'égotisme insatiable de Donald Trump », le règne du miroir. Et dans cet article, on fait l'étalage de toutes les choses que Donald Trump essaie de faire pour montrer sa gloire, sa grandeur. Il rebaptise le Kennedy Center en Trump Kennedy Center, juste pour apparaître dessus. Alors que c'est quand même un centre culturel qui n'a rien à voir avec lui et un mémorial pour Kennedy. Ils refont une aile de la Maison Blanche. Ils demandent à ce que sur le Mont Rushmore, où on a 4 présidents qui sont sculptés, que sa sculpture soit rajoutée, de son vivant, inédit. Il fait un chantage pour avoir un aéroport, une gare à son nom. Encore une fois, de l'autopromotion. Quelqu'un qui essaie de se mettre en avant, probablement au détriment de son peuple. Et c'est vrai qu'on peut regarder ces situations en se disant « Ouais, gloire à Dieu, on n'est pas comme ça. » Aman est probablement un égoïste, un égocentrique, quelqu'un imbu de lui-même, et Dieu merci, nous on ne l'est pas. Probablement pour Trump aussi, mais il faut juste réaliser que l'orgueil est un véritable poison pour l'âme, et l'orgueil est quelque chose qui est une tentation au pied de notre cœur à chaque fois. Nous sommes nous aussi soumis à ça. Nous sommes toujours à un pas de franchir et de devenir quelqu'un d'orgueilleux qui va faire l'étalage de lui-même ou s'auto-centrer sur lui-même. Et pour revenir au cas d'Aman, il est en colère et malgré l'étalage de ses richesses au verset 13, il ne peut pas se départir de cette colère tant que Mardoché ne sera pas mort. C'est la chose qu'il lui faut. Il est OK pour que quelqu'un meure afin que lui retrouve de la joie. En fait, il est OK pour que tout un peuple meure afin que lui retrouve de la joie. On est vraiment dans de l'ego surdimensionné, mais ça a la même racine que l'ego qui pourrait nous atteindre, nous aussi. Dans les études de maison, chaque dimanche compte, au mois de janvier, on regardait un chapitre le chapitre 30, pour ceux qui les ont suivis, et qui montrait que la racine spirituelle de tout péché, c'est la gloire du moi. En fait, nous sommes des voleurs de gloire, dit l'auteur. Nous prenons la gloire qui devrait être attribuée à Dieu pour nous. Créé pour vivre pour sa gloire, finalement on le transforme et on vit pour notre propre gloire. Et en fait, c'est à la racine de tout péché. Qu'on remonte à la Genèse, qu'on regarde le récit de toute la Bible, dans toute l'histoire du péché, il y a toujours l'orgueil, l'ego surdimensionné, le moi à glorifier. Et chaque désobéissance qu'on fait, chaque coup de colère, chaque mensonge, chaque moment qu'on ne peut même pas révéler à haute voix, c'est jamais parce qu'on le fait pour quelqu'un. Personne ne pêche par altruisme, on pêche toujours pour se satisfaire soi-même. Et cet ego est un véritable poison. Et comme un poison, il se diffuse dans tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut faire, et il peut nous atteindre. Et Dieu a en horreur l'ego. Jacques 4,6 nous dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. » Et nous avons besoin de réaliser que c'est un problème que nous devons prendre au sérieux dans nos vies, dans notre discipline, parce que cet orgueil peut nous mener au péché et nous mener plus loin à la mort. Il faut revenir à de l'humilité, se rappeler qu'on est des êtres créés par Dieu, qui reçoivent tout de lui et qui dépendent de lui pour tout. Il n'y a aucune gloire à tirer de quoi que ce soit. Et que notre but, en fait, c'est d'être de vrais adorateurs. Pour ça qu'on est créés. Mais encore une fois, pour revenir au cas d'Aman, son orgueil a des conséquences plus tragiques, puisque c'est l'élimination du peuple de Dieu qui est en jeu. Et juste quand même pour le noter, les conseillers qu'il a à côté de lui, j'espère qu'on ne ressemble pas à ses conseillers. Si lui est en colère, eux, ils ont juste mis du kérosène sur le feu de cette colère, en se disant, bah, ok, t'es en colère, bah, va construire une potence de 25 mètres, un immeuble de 8 étages, et on va pendre Mardoché dessus, pour que tout le monde voit que tu le détestais au point qu'il soit là. Mais le point culminant de l'orgueil de Mardoché, c'est qu'il veut s'en prendre au peuple de Dieu. Littéralement, l'œuvre de Satan. Et qu'en essayant de se prendre au peuple de Dieu, on est en train de s'en prendre à Dieu lui-même et de s'opposer à lui. Proverbe 16, 18 nous dit « L'orgueil conduit à la faillite et l'arrogance à la ruine. » Et clairement, s'opposer à Dieu, c'est forcément notre déchéance. Et au début du chapitre 6, donc c'est mon troisième point, on a un rebondissement inattendu. Un twist dans l'histoire. Quelque chose qui est a priori anodin, mais qui va faire changer tout le cours de l'histoire et de ce récit, et même de l'histoire du salut. Et dans l'histoire du monde, il y a souvent eu des événements comme ça, quelque chose d'anodin, de banal, presque dû au hasard, et qui a eu des conséquences majeures sur le cours de l'humanité, qui a été un tournant. Et bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, joncher l'histoire et joncher d'éléments comme ça. On peut penser à Enigma, qui a permis de décoder le code secret des Allemands, et alors de pouvoir préparer une défense côté anglais. On peut juste réfléchir à Einstein qui s'exile aux États-Unis au début des années 40. Qu'est-ce que ça aurait été s'il était sous le régime nazi, en ayant la connaissance qu'il a, en pouvant faire une bombe nucléaire? Et je pense juste à Fleming, qui est, alors c'est plus proche de mon domaine et de mon métier, qui est un bactériologiste et en fait qui travaille sur des petites boîtes de culture et qui travaille sur des bactéries. Et il laisse une boîte, comme ça arrive, pour que les bactéries puissent grandir. Et il revient le lendemain et en fait, il voit que de la moisissure a attaqué sa boîte. Ça arrive, l'expérience est ratée, on pourrait le jeter. Et il prend quand même le temps de regarder sa boîte et il voit qu'il y a juste quelque chose qui protège un cercle au milieu où il n'y a pas de contamination et où les bactéries ont été tuées. Et juste d'un événement, a priori anodin, il vient de découvrir ce qui va être la génération des antibiotiques et qui va sauver des millions de personnes pendant des générations. Des événements parfois qui paraissent anodins changent le cours de l'histoire. Et c'est ce qui se passe là dans le récit. Au verset 1 du chapitre 11, du chapitre 6, pardon, le roi n'arrive pas à dormir. Il a juste une insomnie. Peut-être que la soirée était trop grande, il a bu trop d'alcool, il a trop mangé. En tout cas, il n'arrive pas à dormir. Alors, si c'était à notre époque, bon, on aurait scrollé toute la nuit, on aurait lu des choses, vu des commentaires, mais lui demande à ce qu'on rapporte le registre où sont enregistrés tous les événements marquants du royaume. Et de tous les événements de cet immense royaume, il tombe sur l'événement assez insignifiant où Mardoché démonte une conspiration contre le roi et va prévenir le roi. Et en fait, deux eunuques sont tués parce qu'ils essayaient de tuer le roi. Et il pose juste la question à ses serviteurs, bon, alors qu'est-ce qu'on a fait pour Mardoché ? Et lui répondre rien. Il faut savoir que dans la coutume de l'Empire perse, on rétribuait toujours quelqu'un pour quelque chose. Et là, c'est un fait unique. Il n'avait pas été honoré pour ce qu'il avait fait. Et là, encore une fois, ok, un événement insignifiant. Et pendant qu'il parle, Aman rentre dans la cour du roi. Et le roi demande, mais qui est là ? Bah, en fait, c'est Aman. Bah, qu'il vienne. Aman vient. Il lui pose juste la question, comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? Et là, bien sûr, Aman, il se dit, moi, Aman, je suppose qu'il est en train de parler de moi. Ok, alors si tu veux rétribuer un quelqu'un d'important pour toi. Ce que tu vas faire, tu vas aller prendre les tenues du roi, tu vas prendre la belle Mercedes du roi, alors tenue qu'il a portée bien sûr, que tout le monde a vu le roi porter, tu vas être dans sa Mercedes, on va t'amener sur la grande place, et tout le monde va crier, voici un homme que le roi veut honorer. Ça, c'est ce que le roi, tu devrais faire. Et là, juste dans sa réponse, à la fois qu'il pense que c'est lui que le roi veut honorer, orgueil, mais même dans sa réponse, on voit que quelque part, il est en train de monter, et de se prendre lui-même un petit peu pour le roi. Je suis désolé, quelqu'un qui veut mettre les habits du roi, être sur le cheval du roi, avoir tous les garments du roi, c'est quelqu'un qui veut se prendre pour le roi. Son orgueil est démesuré. Mais en fait, il va être pris au piège de son orgueil. Parce qu'on a vraiment ce twist, ce renversement dans l'histoire. En fait, le roi, très bien ce que tu dis, mais tu sais quoi ? Va le faire pour Mardoché, parce que c'est lui que je veux honorer. Il pouvait y avoir 1 million de personnes dans tout le royaume, mais le seul homme qu'il déteste le plus, c'est lui qu'il faut honorer. On a vraiment un renversement de l'histoire, basé encore une fois sur une insomnie du roi. Ce renversement rappelle beaucoup, beaucoup le message de l'Évangile et de ce que Christ lui-même fait à la croix pour nous. Parce que finalement, Mardoché était quelqu'un d'en bas, quelqu'un qui mériterait la mort, finalement qu'on va élever, qu'on va honorer et qu'on va mettre presque aussi haut que le roi. Et on ne va pas le lire, mais c'est ce que Philippiens 2, 6 à 11 dit. Lui qui était de condition divine, Jésus, il accepte de s'abaisser, de se dépouiller de lui-même en prenant la condition du serviteur, notre condition. Il vient vivre notre vie, il fait preuve d'obéissance, il meurt sur la croix, mais en fait, Dieu l'élève à la plus haute place que personne n'aura jamais à cause de son acte d'obéissance. Ce vrai renversement que montre l'Évangile. Ceux qui sont abaissés seront élevés et ceux qui s'élèvent seront abaissés. On ne peut que juste dire gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Parce que de ce sacrifice à la croix, nous avons la vie. Et je veux juste terminer avec ces quelques derniers versets et nous donner 3 encouragements sur ce long passage. Les versets qui se terminent sont assez... Là aussi, j'ai utilisé plein de fois le mot frappant, mais c'est l'effet que ça me fait, très frappant. Le verset 13, Aman sort de cet événement où il a dû honorer Mardoché, il a dû l'amener à la place de la ville et dire que c'est comme ça qu'on traite quelqu'un que le roi veut honorer. Lui, dont c'est l'ennemi, le seul homme qu'il veut tuer, pour lequel il a construit une potence de 25 mètres, mais en fait, il rentre chez lui, la tête baissée, on dit même en deuil, le visage couvert. Et il va faire la même chose qu'il a fait à la fin du chapitre 5. Il va appeler sa femme, il va appeler ses amis. Et c'est drôle, il va leur raconter point par point tout ce qui s'est passé. Et là aussi, on a un twist, on a un changement. Au départ, c'était des conseils franchement horribles de vouloir pendre Mardoché. Et là, la femme de Mardoché, Aman, va lui dire... dans la suite du verset 13, « Si ce Mardoché devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui. Tu ne pourras que perdre la partie contre lui. » Changement quand même. Au départ, elle lui conseillait de le pendre, et là elle dit, « Si c'est un juif, la partie est finie. Game over, tu ne pourras plus rien faire. » Mais en fait, en tant que spectatrice, ce que la femme de Mardoché voit, c'est juste quelque chose que nous aussi on voit en regardant ce récit. C'est la main de Dieu sur tous les événements. Son nom n'est pas cité, mais sa main est omniprésente. Et si vous faites des statistiques, les événements du hasard qui sont relatés dans ce livre sont absolument faramineux. On peut se poser multiples questions. Qu'est-ce qui fait qu'Esther était aussi belle ? Qu'est-ce qui fait qu'elle était prise pour reine ? Qu'est-ce qui fait que Mardochée se soit trouvé juste à la porte du palais pour entendre qu'il y avait une conspiration contre le roi? Qu'est-ce qui fait que le roi ait eu une insomnie? Qu'est-ce qui fait que Aman soit dans la cour du roi juste à ce moment-là? Et on peut continuer sans fin dans le livre. De tous ces événements qu'on pourrait qualifier de hasard, de « c'est arrivé comme ça, on ne sait pas trop », il y a la main de Dieu qui orchestrait tout dans le détail, dans le moindre détail. Et c'est pour ça que je veux terminer par ces trois encouragements. La providence de Dieu, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut juste dire que Dieu orchestre tout pour que ses plans arrivent à leur terme. Dans tous les événements de l'histoire, dans tout ce qui se passe, la main de Dieu est omniprésente. Et ça doit être source de confiance pour nous. La chose liée directement à ça, deuxième encouragement, c'est que Dieu protège son peuple. Les enjeux dans l'histoire ici sont énormes. Si jamais le peuple juif vient à être exterminé, c'est l'histoire du salut qui s'arrête, c'est les promesses de Dieu qui ne s'accomplissent plus, c'est nous qui ne pouvons plus accéder au salut. Les enjeux étaient énormes. Et bien sûr, la suite du livre et le fait qu'on soit là ce matin nous prouvent que Dieu protège son peuple. Mais c'est aussi le cas pour nous aujourd'hui. En tant que peuple de Dieu, Dieu nous protège. C'est vrai que les nouvelles de l'Église de par le monde sont alarmantes, mais Dieu protège son peuple. On peut être en confiance. Et la dernière chose, c'est peut-être à un niveau personnel. Je ne sais pas par quelle détresse vous passez, qu'est-ce que vous traversez, qu'est-ce que vous endurez, depuis combien de temps vous l'endurez. Et je sais qu'au milieu des souffrances ou des détresses, on peut se demander où est Dieu, qu'est-ce qu'il fait. Eh bien, ce livre est juste là pour nous encourager, à nous rappeler que Dieu est présent, que sa providence est là, qu'il nous protège comme il protège son peuple, et qu'on peut être encouragé, et que malgré tout, dans la réalité ordinaire de la vie, il conduit les circonstances et les événements pour faire concourir toutes choses à notre bien. Prions. Merci Seigneur encore pour ta bonté, pour la clarté de ta parole, pour son accessibilité, pour sa simplicité. Merci pour les vérités qu'elle nous révèle. Merci parce que dedans, on y voit le vrai Dieu tel qu'il est, à l'œuvre en toute chose, qui soutient le monde, qui soutient sa création et qui veille sur tous les éléments. Mais un Dieu qui veille sur chacun de ses enfants, sur tout son peuple, afin de les amener jusqu'au bout. Et Seigneur, raffermis notre confiance de toi. Raffermis notre confiance en toi, Seigneur, notre assurance que tu ne nous abandonnes pas et que tu ne nous lâches pas. Et qu'ultimement, nous serons auprès de toi par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.